France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions politiques. Dans trois jours, le gouvernement Le Cornu 2 passera le cap des 30 jours d'existence. À l'Assemblée nationale, son projet de budget poursuit son chemin. Une copie largement inspirée de celle de son prédécesseur François Bayrou, mais aujourd'hui détricotée par les oppositions, sans que l'on voie exactement si à la fin, les finances publiques s'en porteront beaucoup mieux, ni qui seront exactement les gagnants et les perdants. Ce qui est clair en revanche, c'est l'impact politique du nouveau fonctionnement parlementaire, le bloc central fissuré, les macronistes divisés et au sein de la gauche, le procès en trahison du Parti Socialiste est engagé. Est-il temps de faire des compromis ? Faut-il être radical ? Et d'ailleurs, à quelle radicalité aspirent vraiment les Français au moment où le Rassemblement National est à 35% d'intention de vote dans les sondages ? À 5 mois des municipales, n'est-il pas aussi risqué pour la gauche de jouer de nouveau les irréconciliables ? Voilà notre discussion ce dimanche avec le coordinateur national de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, et notre invité en direct sur France Inter, sur France Info, le canal 16 de la télé et en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes ensemble pour répondre à toutes les questions politiques jusqu'à 13h.
France Inter. Questions politiques. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue Manuel Bompard.
Bonjour, merci.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour vous interviewer, je salue Alix Bouillaguet de France Télévisions. Bonjour Alix.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Avec vous tout à l'heure, on retracera le parcours du docteur en mathématiques, Manuel Bompard.
Oui, parce que rien ne vous prédestinait, Manuel Bompard, à faire de la politique. Aujourd'hui, vous avez les deux pieds dedans et on va se demander jusqu'où vous comptez aller.
Françoise Fressos du journal Le Monde est également à nos côtés. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et tous.
Avec vous, on va se projeter, comme tous les dimanches, jusqu'en 2027. Sur quel sujet avez-vous envie de faire le point ce dimanche ?
Alors, ce n'est pas Manuel Bompard, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon avec cet questionnement vers une quatrième candidature. Est-ce que cette fois, c'est la bonne candidature ou est-ce que c'est la candidature de trop ?
Mais d'abord, Manuel Bompard qui sourit déjà. 5 minutes d'actu entre quatre yeux. Le budget de la Sécurité sociale continue d'être examiné à l'Assemblée. Est-ce que mercredi, vous allez vraiment voter contre la suspension de la réforme des retraites ?
Alors, si on a la possibilité d'abord d'aller jusqu'au vote du budget de la Sécurité sociale, je vous confirme notre volonté de rejeter ce budget. Mais ce n'est pas certain à ce stade qu'on aille jusqu'à son terme, puisque vous savez, il y a des délais constitutionnels qui encadrent le temps dont l'Assemblée nationale dispose pour pouvoir examiner ce budget. Et au vu du nombre d'amendements qui nous restent et du nombre de séances qui nous restent, le plus probable aujourd'hui, c'est que mercredi, le budget ne soit pas voté. Ni d'ailleurs adopté, ni rejeté, et qu'il parte au Sénat avec la possibilité, dans ce cadre-là, pour le gouvernement, de choisir lui-même les amendements qu'il retiendra.
Alors, le gouvernement qui dit, par exemple, Amélie de Montchalin, qui dit non, c'est faux, hein, ça c'est une fake news encore des insoumis, le gouvernement reprendra tous les amendements qui ont été votés.
Ah ben, le gouvernement a la possibilité de choisir les amendements qu'il retient. S'il décide de retenir tous les amendements, il retiendra tous les amendements. Mais en tout cas, les parlementaires n'auront pas l'opportunité de se prononcer pour adopter ou rejeter le budget
alors
de la sécurité sociale.
Alors vous, qui voulez-vous prononcer ? Je repose ma question.
Attendez,
sur la suspension.
Attendez, je vais y venir, vous inquiétez pas.
Maintenant, c'est important quand même, parce que c'est...
Évidemment, évidemment.
C'est quelque chose, la suspension de la réforme des retraites, c'est une chose pour laquelle les salariés sont descendus par millions dans les retraites.
Non.
L'abrogation. Mais dites-moi sur
bah
la
oui,
suspension.
Mais c'est quand même une différence
mais
majeure.
Mais dites-moi sur la suspension.
Mais il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites dans ce budget de la sécurité sociale. Il y a effectivement une mesure qui a été accordée par M. Le Cornu, qui est un décalage de l'entrée en vigueur de la retraite à 64 ans d'un an. C'est-à-dire que initialement, c'est les gens nés en 1968 qui devaient partir à la retraite à 64 ans. Si le projet de M. Le Cornu allait jusqu'à son terme, c'est les personnes qui sont nées en 1969. C'est un décalage d'un an de l'entrée en application de la retraite à 64 ans.
Ça ne suffit pas, LFI.
Mais non, mais moi, madame, je suis défavorable à la retraite à 64 ans. Je considère que d'ailleurs, ça a été une forfaiture antidémocratique, un passage en force. Et donc moi, je me bats pour l'abrogation de cette réforme.
Marie-Lise Léon, c'est un syndicat. C'est elle justement qui a emmené des millions de personnes avec la CGT.
Évidemment, c'est
la CFDT.
Une représentante de la CFDT.
Elle dit que l'argument de la suspension qui serait en fait un leurre et qui ne suffit pas, c'est un argument de loser. Ce sont ses mots, ce ne sont pas les miens. Ceux qui considèrent qu'en 2027, en fait, la gauche n'a aucune chance et donc que fatalement, la réforme Borne s'appliquera. Est-ce que c'est comme ça que vous raisonnez? Est-ce que vous vous dites, madame, la suspension ne suffit pas parce qu'on n'a aucune chance en 2027?
Madame, d'abord, je vous ai dit que ce n'était pas une suspension, je vous ai expliqué pourquoi. Et deuxièmement...
Marie-Lise Léon, elle dit que c'est une victoire. Là, c'est un syndicat de salariés.
Moi, je ne suis pas Marie-Lise Léon, donc si vous voulez interviewer Marie-Lise Léon, invitez-la, mais là, en l'occurrence, c'est moi que vous avez en face de vous. Or, qu'est-ce que je vous dis, et que les gens qui nous écoutent doivent pouvoir comprendre, c'est que faire croire que ça va être un progrès pour les gens, un décalage d'un an de l'entrée en vigueur de la retraite à 64 ans, quand elle est financée dans le budget de la Sécurité sociale par un gel des pensions de retraite l'année prochaine, une sous-indexation pendant 4 ans des pensions de retraite, c'est-à-dire que, y compris les salariés qui pourraient peut-être, et il n'y en a pas beaucoup, bénéficier du fait qu'ils gagnent 3 mois sur leur âge de départ à la retraite...
Mais justement, ça, c'est ce dont il faudrait discuter.
Madame.
N'est-ce pas ? Est-ce que ça n'est pas dans le débat ?
Laissez-moi aller au bout de ma démonstration, si vous voulez bien. Même ces personnes-là qui gagneraient peut-être 3 mois, elles perdent davantage parce que leur pension de retraite serait sous-indexée pendant 4 ans. Donc en fait, on fait croire aux gens, c'est comme si on disait aux gens, vous devriez être content, on va vous donner 1 euro, mais dans le même temps, on vous en reprend 5.
Manuel Bompard, vous voyez, est-ce que c'est pas ce débat qu'il faudrait avoir ?
Excusez-moi, ça s'appelle pas un progrès, ça.
Est-ce que c'est pas ce débat qu'il faudrait avoir ?
Mais on l'a, ce débat.
Vous l'avez, ce débat ?
On l'a là, on l'a à l'Assemblée nationale, et évidemment, il n'est pas acceptable que pour que ce décalage de 3 mois puisse voir le jour, il faut avaler l'ensemble du budget de la Sécurité sociale, c'est-à-dire entre 12 et 15 milliards d'euros d'économies sur le budget de la Sécurité sociale.
Ça n'est pas ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas ?
En ce moment, c'est en train de se passer, madame. C'est exactement ce qui est en train de se passer, pardonnez-moi. Le budget de la Sécurité sociale, c'est moins 7 milliards d'euros d'économies sur la santé, c'est 3 milliards pour l'année blanche, c'est 3 milliards sur le gel des pensions de retraite. Vous aurez du mal à faire croire aux gens qui nous écoutent que c'est un progrès. Moi, s'il y avait la possibilité d'avoir le décalage sans les contreparties, très bien, je prendrais, mais il n'y a pas.
Ce matin, dans Le Parisien, le premier secrétaire du Parti Socialiste est cinglant avec les Insoumis, vous l'avez lu, j'imagine. Quand on prétend défendre les salariés, on ne pratique pas la politique du pire au nom d'un grand soir qui ne vient jamais, vous dit Olivier Faure.
Mais moi, en fait, je ne pratique pas la politique du pire ou du grand soir. Ce que dit Olivier Faure est juste faux, mais vous savez, quand on prétend...
C'est pas, ne pas voter la suspension en disant « nous, on veut l'abrogation ».
Quand on prétend défendre les salariés, quand on prétend défendre les retraités, et quand dans le même temps le gouvernement a l'intention de faire la poche des retraités et des salariés, notre devoir, quand on prétend les défendre, et je prétends les défendre, c'est d'empêcher le gouvernement de faire ça. C'est pas de le laisser faire. Or, ce que fait le Parti Socialiste aujourd'hui, c'est en quelque sorte de vendre des illusions et de laisser passer, là par exemple, hier, les recettes du budget de la Sécurité sociale. C'est donc d'avaliser l'idée qu'il va y avoir entre 10 et 15 milliards d'euros de coupes dans le budget de la santé, dans le budget de l'hôpital. Donc excusez-moi, mais ça c'est l'inverse du programme que j'ai défendu devant les électrices et les électeurs. Et c'est d'ailleurs l'inverse du programme que Olivier Faure a défendu devant les électrices et les électeurs.
Le PS, lui, évidemment, revendique sa stratégie, une stratégie des petits pas et des victoires. Alors donc la suspension de la réforme des retraites, le rétablissement d'une forme d'ISF, le dégel du barème de l'impôt sur le revenu, un milliard de plus pour l'hôpital.
C'est incroyable.
Est-ce que vous les comprenez et vous revendiquez quoi ?
Non mais madame, d'abord, excusez-moi de vous le dire, mais là, la liste
c'est la liste du PS, hein.
Oui, je sais, mais je sais pas, votre rôle, c'est pas juste de répéter ce que dit le Parti Socialiste, c'est quand
même
de le vérifier.
Non mais mon rôle est d'essayer de comprendre où
c'est
vous emmenez le débat.
C'est quand même de le vérifier. Est-ce que l'Assemblée nationale a voté un rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ? La réponse est non. Ce n'est pas vrai.
Il y a eu une modification de
ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune immobilière, où on a transformé un barème progressif par un barème avec un taux fixe de 1%. Très concrètement, ce qu'a fait l'Assemblée nationale, c'est faire un cadeau aux multimilliardaires, aux plus riches, parce qu'ils paieront moins d'impôts sur la fortune, en l'occurrence immobilière, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, si ce projet devait voir le jour, que c'est le cas aujourd'hui. Vous avez cité dans les victoires du Parti Socialiste la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu. C'est un amendement que nous avons voté, nous, que le Parti Socialiste n'a pas voté. Ils ont voté contre. Alors, si vous voulez maintenant expliquer que les points sur lesquels ils ont voté contre, c'est des victoires du Parti Socialiste, ça va commencer à être un petit peu compliqué à convaincre. Maintenant, vous m'avez posé la question. Nous, ce qu'on fait, on se bat pour essayer d'enlever un maximum de mauvaises choses de ce budget. Mais on ne se fait pas d'illusions et on ne vend pas du rêve aux Françaises et aux Français.
Est-ce
et on sait qu'à la
fin,
le gouvernement a l'intention de les ramener, notamment par la commission mixte paritaire, c'est-à-dire par le Sénat. Et donc, à la fin, nous allons rejeter ce budget. Nous allons rejeter ce budget de la Sécurité sociale parce qu'il n'y a rien à attendre de ce gouvernement.
Et est-ce que je vous ai bien compris, mercredi, si vous arrivez au moment où il faut voter sur la suspension de la réforme des retraites, vous voterez contre cette suspension.
Oui, c'est ce que nous avons fait en commission et il n'y a aucune raison que nous fassions des choses différentes à l'Assemblée nationale en hémicycle, pour la raison que je vous ai indiquée.
Et quel est l'espoir sur l'abrogation ? Vous avez quel espoir sur la possibilité de faire passer l'abrogation? C'est votre niche du 27 novembre.
Bah non, mais avec ce gouvernement, je n'ai aucun espoir de faire passer l'abrogation de la réforme des retraites. C'est pourquoi, si on veut l'abrogation de la réforme des retraites, il faut faire tomber ce gouvernement. Parce que vous savez, c'est quand même incroyable.
Alors, allez-vous votre censure?
Attendez, c'est quand même incroyable. Il faudrait faire passer comme un progrès le fait d'avoir un vague décalage alors qu'il y a une majorité de députés qui sont pour l'abrogation. Il suffirait que le gouvernement dise très bien, les députés votent. Et si les députés votaient, l'abrogation de la réforme des retraites serait votée.
On ouvre la discussion.
Vous voyez, donc moi je continue à me battre pour l'abrogation de la réforme des retraites, et pour ça, ça passe par la censure de ce gouvernement.
On ouvre la discussion avec une question de Françoise Fressoze.
La censure du gouvernement, comment comptez-vous l'obtenir? Là, on a l'impression que votre stratégie, comme d'ailleurs celle du Rassemblement national, d'obtenir soit la destitution, soit la dissolution, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui vous fait encore espérer? Est-ce que vous allez essayer d'avoir avec vous les écologistes et le Parti communiste? Est-ce que des discussions sont engagées avec eux? Racontez-nous quelle est votre stratégie aujourd'hui, alors que, encore une fois, on a l'impression que vous êtes un peu en difficulté par rapport à votre ambition du début.
Alors non, je ne me sens pas du tout en difficulté. C'est très simple, Madame Fressoze. Il y a eu une motion de censure il y a à peu près maintenant un mois à l'Assemblée nationale qui a échoué à 18 voix près. Vous me parlez
donc,
des...
Donc, quand est-ce que vous en redéposez
attendez, attendez,
une
je vais vous répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. Les écologistes, les communistes avaient voté favorablement cette motion de censure. Si elle n'est pas passée, c'est parce que les socialistes ne l'ont pas votée. Donc, mon objectif, moi, c'est d'obtenir la chute de ce budget de la sécurité sociale pour protéger les Français. La chute de ce gouvernement. Ça passe par le fait de redéposer une motion de censure. Et nous redéposerons cette motion de censure à partir du moment où nous avons une certitude que celle-ci puisse être votée. Donc,
alors,
mon
quand exactement?
On va voir comment le calendrier avance, mais il me semble évident qu'avant Noël, sans doute au début du mois de décembre, il y aura une nouvelle motion de censure parce que tout le monde aura sous les yeux à ce moment-là la réalité de ce que sont le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale, et je n'ose croire que les députés socialistes puissent accepter un budget de la sécurité sociale
qui coupe
sur...
En fait, vous ne savez pas encore dans quel état sera la copie, ça sera au moment de la CMP, c'est ça que vous ferez?
Au moment de la CMP, au moment du retour
commission
devant l'Assemblée
paritaire.
Nationale. Vous savez, c'est très compliqué peut-être pour les gens qui nous écoutent, mais il y a plusieurs hypothèses sur la table. Il y a l'hypothèse qu'à la fin, il y a une commission mixte paritaire et donc une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Et donc là, on aura une vision précise de ce budget, de ce budget de la sécurité sociale. Il y a l'hypothèse que les délais parlementaires soient totalement excédés, que le gouvernement puisse légiférer par ordonnance.
C'est votre rêve, ça, en fait?
Ah non, c'est pas mon rêve, non. Moi, vous savez, je suis parlementaire et les ordonnances, ça n'a jamais été utilisé en France sur le budget depuis 1958. Donc si le gouvernement va au coup de force jusqu'à passer son budget par ordonnance, alors là, oui, c'est clair qu'il y aura une motion de censure. Et je crois que le gouvernement sera renversé.
Manuel Bompard, le vote d'hier sur le volet recette du projet de loi de finances de la Sécurité sociale est assez éclairant. Vous avez voté contre avec le Rassemblement national. Vos petits camarades communistes et écologistes se sont, eux, abstenus. Est-ce que ça veut dire que vous êtes dans l'hémicycle pour faire en quelque sorte dérailler le système? C'est ce que vous dit la ministre des Comptes publics, Amélie Montchalin, qui vous classe dans la catégorie arnaqueur et illusionniste, la même catégorie que le Rassemblement national. Est-ce que vous marchez main dans la main avec eux?
Franchement, madame, moi je fais mon travail à l'Assemblée nationale et j'essaye de défendre les propositions politiques qui sont celles pour lesquelles les électrices et les électeurs ont élu les députés de la France insoumise. Et madame Montchalin ferait mieux de se rendre compte que c'est son budget qui risque de faire dérailler le pays. Est-ce que vous savez que les prévisions économiques sur le budget de monsieur Lecornu se traduiraient par une division de la croissance par deux l'année prochaine? Donc vous voyez, pardon,
mais les écologistes et les communistes vous ont lâché en quelque sorte. Ça, c'est la grande nouveauté. Les socialistes, on était habitués, mais
madame,
eux, c'est un fait nouveau.
Madame, il y a eu hier une abstention d'une majorité
qui permet
du groupe écologiste
au budget recettes d'être accepté.
Je suis d'accord avec vous,
accepté.
Même s'il faut aussi dire qu'un certain nombre de députés écologistes et de députés communistes, eux, ont voté contre comme nous. Il n'y a pas eu que les insoumis
mais
qui ont voté contre.
Mais c'est une mauvaise nouvelle pour vous.
Mais c'est surtout une mauvaise nouvelle pour le pays. Parce que le raisonnement qui était celui du Parti Socialiste, y compris jusque-là, c'était de dire... En fait, on sera fixé au moment de la fin de l'examen sur les recettes, parce qu'on saura quelles sont les marges de manœuvre dont on dispose sur les dépenses. Il n'y a eu quasiment aucune recette nouvelle dégagée sur le budget de la sécurité sociale. En acceptant un budget de la sécurité sociale dans lequel il y a...
sur les revenus du capital.
C'est vrai, c'est pour ça que je vous dis quasiment, madame. C'est-à-dire qu'en gros, il était prévu 15 milliards de coupes dans le budget de la sécurité sociale. Ils ont réussi à rajouter 3 milliards, mais il y a aussi à peu près 3 milliards qui sont ressortis parce qu'un certain nombre de mesures qui étaient prévues ont été annulées. Donc en fait, on est toujours à peu près au même niveau. Si à la fin, vous n'avez pas de recettes, il n'y a pas 10 000 solutions. À la fin, forcément, il va falloir faire payer la facture
et les recettes,
sur
pardon,
les dépenses.
Manuel Bompard.
Payer la facture sur les dépenses, ça veut dire réduire les indemnisations pour les personnes qui sont atteintes, par exemple, de maladies de longue durée. Ça veut dire, par exemple, doubler les franchises médicales. Donc ça, ça a des conséquences très concrètes sur la vie des
Manuel
gens.
Bompard,
et ben moi, je suis contre ça.
Sur ce cadrage économique, on a 3 000 milliards de dettes, on va être à 118% de dettes. 3 500 milliards de dettes, 118% de dettes. On a une charge des intérêts de la dette qui va devenir le premier budget du pays. Est-ce que vous vous placez dans le cadre où il faut revenir sous les 3% de déficit en 2029? Est-ce que c'est ça, votre trajectoire?
Je pense que d'ici à 2029, c'est juste impossible. Et ceux qui disent qu'ils vont le faire n'y arriveront pas. Puis pour la raison que les budgets de ce qu'on appelle d'austérité ou de coupe que M. Lecornu met sur la table se traduisent par un ralentissement de l'activité économique, je vous le disais.
Les recettes, c'est sur les entreprises essentiellement.
Mais en fait, madame, la situation actuelle, Le déficit aujourd'hui supérieur à 5% en France, à un moment, il faudrait quand même que ça soit dit, et vous pouvez vérifier ces chiffres. Depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, les dépenses publiques en proportion du PIB, elles n'ont pas augmenté. Elles ont même légèrement baissé. Ce qui a été réduit depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est les recettes. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron a une politique, qui était une politique qu'il a appelée politique de l'offre. Je fais des cadeaux aux plus riches, je fais des cadeaux aux grandes entreprises, et j'espère que ça se traduise par un impact sur l'économie réelle. Voilà. Oui. Cette politique-là, elle a profité à 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% les plus pauvres. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on a effectivement un déficit qui est trop important. Donc, qu'est-ce que moi, je vous dis ? Je vous dis, si vous voulez résoudre le problème qui nous est posé, vous devez rétablir des recettes. Et ces recettes, ça veut dire...
Et on est déjà à 45% de taux de prélèvement obligatoire.
Mais non,
on est numéro 2 dans la zone euro.
Mais non, mais en fait, ça dépend. On compte plusieurs fois on compte plusieurs fois un certain nombre de choses. Attendez, franchement, soyons sérieux. Les 500 plus riches dans ce pays, ils ont vu leur patrimoine doubler depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Donc oui, excusez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, c'est sur eux qu'ils devraient faire des économies plutôt que diviser par deux la prime de Noël sur les allocataires du RSA. Vous voyez, c'est une question de choix politique. Moi, je préfère faire payer les milliardaires que les allocataires du RSA.
Mais il n'y a pas de majorité l'Assemblée pour la taxe Zucman.
C'est la raison pour laquelle je pense qu'il fallait censurer le gouvernement. Et le Parti Socialiste disait d'ailleurs, si la taxe Zucman n'est pas adoptée, nous censurerons le gouvernement. Elle n'a pas été adoptée, ils n'ont pas l'intention aujourd'hui de censurer le gouvernement.
On voit quand même qu'avec ce vote d'hier, je reviens, excusez-moi à ça, mais c'est quand même la grande nouvelle. C'est-à-dire que les Insoumis, vous êtes quand même isolés au sein du camp de gauche. Imaginons des législatives anticipées. Est-ce que vous croyez toujours à la capacité de cette gauche à s'unir ?
Ne dites pas des choses qui y compris mathématiquement.
C'est factuel, Manuel Bompard.
Justement, mathématiquement, elles ne tiennent pas. Par exemple, parmi l'ensemble des parlementaires du Nouveau Front Populaire, il y en a davantage aujourd'hui, hier, qui ont voté contre les recettes du budget de la Sécurité sociale que pour. Donc, ne me dites pas que je suis isolé. Maintenant, je regrette, je n'ai pas de problème à vous le dire, je ne comprends pas et je regrette la décision des écologistes et des communistes de s'abstenir sur les recettes du budget de la Sécurité sociale. Et comme il y aura à la fin un vote sur le budget final... J'ose espérer qu'ils vont se ressaisir et qu'ils vont comprendre que le programme du Nouveau Front Populaire, c'est de voter contre.
Assiste-t-on au retour des deux gauches irréconciliables ou pas ?
Mais non, mais en fait, les électrices et les électeurs de gauche, ils ne sont pas d'accord avec la stratégie du Parti Socialiste. D'habitude, d'ailleurs, vous regardez les sondages, les enquêtes de popularité. Peut-être vous avez vu, par exemple, l'enquête de popularité ce matin, qui est publiée par le journal La Tribune de dimanche. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que dans le bloc de gauche, ceux qui tiennent bon sur la censure et le rejet de la politique d'Emmanuel Macron, ils progressent, et qu'à l'inverse, quelqu'un comme Olivier Faure, qui allait, de mon point de vue, se fourvoyer dans un accord avec M. Lecornu, est en train de s'affaisser. Donc, en fait, les électeurs de gauche, y compris les militants et les électeurs du Parti Socialiste, ils sont pas d'accord avec
la
décision.
Mais c'est rabibochage, imaginons, législative ou municipale, la gauche va se retrouver, elle a
Je souhaite que les électrices et les électeurs de gauche se retrouvent autour de ceux qui ne transigent pas sur les principes, qui restent cohérents avec les valeurs qu'ils ont défendues.
Donc ça veut dire pas d'accord avec les socialistes, par exemple, pour les municipales. Ça se traduit comment, ça ?
Aux élections municipales.
Ou législatives ou municipales.
On est à 5 mois, c'est en mars.
Aux élections municipales, il y aura effectivement différentes candidatures dans l'essentiel des grandes villes, c'est clair. D'ailleurs, les partis socialistes a même dit à Paris, vous l'avez peut-être vu, pas d'alliance avec la France insoumise, ni au premier, ni au deuxième tour.
Et au deuxième tour, qu'est-ce que vous faites ?
Moi, si je suis... Les listes conduites ou menées par la France insoumise Insoumise ou soutenue par la France Insoumise, évidemment, dans un second tour aux élections municipales, elle propose aux autres listes de gauche de se rassembler pour battre la droite et l'extrême droite, comme on l'a toujours
Donc
fait.
Donc vous faites l'union au deuxième tour.
Ben moi, je souhaite qu'on puisse faire l'union partout où on est en tête, en proposant aux autres de fusionner avec nous.
Et quand vous n'êtes pas en tête.
Ben ça, dans ce cas-là, il faut que vous posiez la question au Parti Socialiste.
Non, mais c'est à vous là que je pose, parce que c'est vous. Vous êtes notre invité aujourd'hui.
J'entends très bien, mais ceux qui décident de fusionner leur liste ou pas, c'est les listes qui sont en tête. D'accord ? Donc, moi, je réponds à ce que je peux répondre. Si notre liste est en tête, on cherche à créer les conditions de
rassemblement. Et pour le reste, vous êtes prêt à vous maintenir ?
Eh bien, pour le reste, on est prêt à en discuter, mais pour l'instant, les socialistes disent qu'il n'est pas question de fusionner avec
la... Donc, c'est quand même la grosse fissure à gauche aujourd'hui.
Ben non, mais ça, c'est au Parti Socialiste qu'il faut poser cette question. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi, alors que je vous dis au deuxième tour, moi, je cherche à rassembler tout le monde, vous ne pouvez pas me reprocher à moi une décision qui, manifestement, est celle du Parti Socialiste.
Un exemple très concret à Lyon, la candidate LFI vient de lancer sa campagne, ça se passait jeudi soir, seule. Contre le reste de la gauche unie et contre Jean-Michel Aulas qui réunit la droite et le centre. La stratégie, c'est Cavalier seul au premier tour et au second. Où vous pensez, dans ce cas de figure, qu'il peut se passer autre chose
Il ne se passera pas autre chose. La stratégie, c'est pas, l'objectif, ce n'est pas d'être tout seul ou d'être à plusieurs. Nous, on a toujours dit la même chose. On propose à celles et ceux qui souhaitent faire avec nous, à partir du moment où on est d'accord sur des mesures programmatiques aux élections municipales.
Le vôtre de programme.
Pas que le nôtre, mais un certain nombre de marqueurs programmatiques. Écoutez, c'est pas que politiciens, les municipales, ça concerne aussi la vie des gens. Donc nous, par exemple, dans les élections municipales, on défendra la gratuité de la cantine scolaire à l'école. Je pense que ça intéresse des gens qui habitent dans ces villes. On défendra le retour en régie publique de l'eau, par exemple. C'est-à-dire de faire en sorte que ça soit pas des multinationales qui s'engraissent sur le dos des habitantes et des habitants de ces villes. Si d'autres sont d'accord pour porter ces propositions, là j'en ai pris deux, il y en a d'autres avec nous, eh ben très bien, on peut faire ensemble, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et pas d'inquiétude, aux élections municipales, le seuil pour se qualifier au deuxième tour, il est à 10%. Et il y a toujours eu aux élections municipales différentes listes à gauche, porteurs pas tout à fait des mêmes propositions programmatiques. Et ensuite c'est les électrices et les électeurs qui décident. Et donc à Lyon, je suis très content que pour l'instant, manifestement, la candidature de Anaïs Belloua-Sachérifié, elle est largement soutenue dans la population lyonnaise, puisque les sondages disent qu'elle pourrait faire 15, 16, 17, 18%. C'est bien.
Alors cette semaine, il y a une victoire de la gauche, mais elle se passe outre-Atlantique. Une victoire éclatante.
C'est vrai.
Oui, je vous emmène aux États-Unis. Le nouveau maire de New York, Zoran Mamdani, qui ne s'est pas privé d'interpeller Donald Trump.
Donald Trump, puisque je sais que tu regardes, j'ai un message pour toi. Monte le volume. S'il y a bien une ville qui peut montrer à tout le pays comment vaincre Trump, c'est New York, la ville de son ascension.
Alors la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, a fait une vidéo hier, enthousiaste. Elle dit « Un insoumis va gouverner New York ». Est-ce que c'est votre nouvelle icône, Manuel Bompard, Zoran Mamdani ?
Icône, c'est un mot un peu fort, mais je trouve que sa victoire est une formidable nouvelle. Ça démontre d'ailleurs que, y compris dans l'Amérique de Donald Trump, il y a une volonté d'une partie de la population de proposer une alternative qui soit une alternative qui se traduit par un changement dans la vie des gens. Et effectivement, du point de vue des propositions politiques que porte Zoran Mamdani, on se sent, nous, les insoumis, très proches. Les propositions qu'il a défendues dans la campagne. Je vous ai donné, par exemple, quelques propositions pour notre campagne des municipales sur la gratuité des cantines scolaires. Je vous ai parlé, par exemple, des comment on rend la vie des gens qui habitent dans ces villes moins difficile. Mmh. Bon, Zoran Mamdani, c'était, par exemple, la gratuité des transports. C'était, par exemple, le gel des loyers, qui sont des propositions qu'on a aussi dans notre programme. Donc, effectivement, on se sent assez proche des propositions politiques qu'il a portées.
Ça ressemble au socialisme à la française, finalement. Les loyers, les bus gratuits, la garde pour les moins de 6 ans.
Alors je ne sais pas si vous êtes, si vous voulez faire campagne pour le Parti Socialiste, mais si vous me dites trouver une ville dans laquelle le Parti Socialiste propose le gel des loyers, je veux bien l'examiner avec vous, mais personnellement j'en ai pas trouvé.
Il y a
pour
le gel des loyers à Paris ?
Non mais ça c'est la loi nationale madame, ça n'a rien à voir avec des mesures municipales. Donc pardon, si le Parti Socialiste maintenant veut se prétendre porteur des aspirations de Zoran Mamdani... Honnêtement, jusque-là, je n'avais pas compris que c'était leur candidat.
Il y a deux formes de gauche aux États-Unis. Il y a une autre gauche en Virginie, n'est-ce pas ? Une autre forme.
La candidature...
Plus centriste.
Vous pouvez essayer de faire apparaître des choses sur un... enfin, de nier la réalité, mais la proposition politique de Zoran Mamdani, je crois qu'elle est assez proche de celle que l'on défend, et je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, on l'a soutenue depuis le premier jour. Et si maintenant, certains tardivement se mettent à le soutenir, c'est une bonne chose aussi.
Manuel Bompard, on entend que vous célébrez
mieux tard que jamais.
Zoran Mamdani. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan « mondialiser l'intifada », en clair, faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème, c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas ?
Il y a trois fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux Juifs partout dans le
comment
monde.
Comment vous traduisez ça,
faux.
Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition.
Je vais corriger vos trois contre-informations avant de répondre à votre question.
Mais mondialiser
deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information.
Si, si, il l'a utilisé, il l'a repris à son compte, pas récemment, je vous l'accorde.
Il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit « je ne suis pas là pour faire la police des mots ». Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan.
Il l'a repris
pardon, madame, de
à
vous
son
dire.
Compte
pardon,
il y a
madame, de vous
temps.
Le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable.
Donc ne
Zoran
pas condamner
Mamdani,
le 7 octobre en
il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon, vraiment,
alors, une
après,
information
vous déformez
exacte,
les choses.
Il lève des fonds pour l'UNRWA, c'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas.
Madame,
ça, c'est pas un problème
madame,
aussi
l'UNRWA. Oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disante collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame ? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser ?
Si
L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question.
Manuel Bompard, on va aller plutôt sur cette actualité après les incidents à la Philharmonie de Paris, puisqu'on est. Actualité proche, n'est-ce pas ? 4 personnes en garde à vue. Lors de ce concert, il y a donc eu des fumigènes, des heurts. Si vous avez vu les images, ça aurait pu franchement mal tourner. Vous ne pouvez pas empêcher des gens d'exprimer une protestation contre un génocide. Ça, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes le seul parti, LFI, à ne pas condamner. Est-ce que ça veut dire que vous validez ? Est-ce que ça veut dire que vous cautionnez ? Est-ce que c'est responsable ?
Je cautionne quoi, madame ?
Que vous cautionnez, qu'on importe, qu'on mette de la violence dans un concert,
parce que
c'est l'orchestre d'Israël qui est en train de jouer.
Là aussi, attention s'il vous plaît, s'il y a eu de la violence vendredi matin, moi j'ai vu les images, vous les avez vues aussi, c'est pas les personnes qui ont allumé des fumigènes, c'est des spectateurs qui les ont frappés. Donc s'il vous
attendez.
Plaît...
Attendez, non, n'inversez pas
si,
tout.
Si, j'inverse,
en fait, le
madame.
Sujet...
C'est
le
vous
sujet, Non, le sujet est le suivant, est-ce que la Philharmonie n'avait pas le droit d'organiser ce concert à vos yeux ?
Moi, je pense que la Philharmonie n'aurait pas dû organiser ce concert, comme la Philharmonie avait par exemple déprogrammé des artistes russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce qu'il s'agissait d'un concert, d'un orchestre philharmonique officiel qui se prétend d'ailleurs comme l'ambassadeur culturel de l'État d'Israël, dans lequel on allait jouer, et on a joué, l'hymne officiel de l'État d'Israël.
Ça n'était pas prévu
avec l'ambassadeur
au programme. La Philharmonie a dit qu'elle ne le savait pas, que
ouais,
ça n'était
ça
pas
a eu
prévu
lieu,
au
madame.
Programme.
Avec l'ambassadeur d'Israël à l'intérieur de la Philharmonie qui se lève et qui chante l'hymne. Et excusez-moi de vous dire que oui, quand un État dont les dirigeants sont aujourd'hui sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et potentiellement pour crimes contre l'humanité, je trouve effectivement que ce concert n'aurait pas eu lieu. Et je trouve normal, et je comprends tout à fait, que des personnes aient décidé de protester contre l'organisation de ce concert et essayer de les faire passer pour des gens violents alors qu'ils ont fait une action de protestation et qu'ils ont ensuite été frappés et qu'ensuite ils ont été frappés à l'intérieur de la salle par des personnes. Si vous êtes contre la violence, vous devriez condamner les gens qui les ont frappés.
La polémique a porté sur est-ce qu'on peut risquer des problèmes de sécurité dans une salle fermée, ça aurait pu extrêmement mal tourner et d'ailleurs ça alimente tout le procès en absence de sécurisation des salles et donc ça renforce tous ceux qui demandent encore plus de sécurité. Donc au fond, est-ce que vous ne faites pas aussi le jeu de l'extrême droite en faisant en cautionnant des actions pareilles. Parce que c'était une salle fermée, avec un vrai risque
Il y a eu des violences. Vous avez raison, il y a eu de la violence. Mais justement, l'arrivée de ces personnes a provoqué aussi
Madame. C'est que ces personnes ont subi de la violence. Eux, ils n'ont pas été violents, contrairement à ce que j'entends sur les plateaux de
télévision. Ça aurait pu mal tourner.
Maintenant, je vais vous dire franchement,
madame. Oui, c'est sur la sécurité des salles fermées.
Les salariés de la Philharmonie, ils avaient pris position avant l'organisation de ce concert. Ils avaient dit, dans le contexte actuel, il faut à minima qu'il y ait une remise dans en perspective politique, dans le contexte
politique. Mais vous
pouvez
faire, des banderoles, des manifs devant la salle.
Vous auriez dit pareil, madame. Bloquer, vous auriez dit qu'ils ont...
Faire des actions comme ça, c'était extrêmement dangereux.
C'est une action symbolique et elle n'était pas dangereuse. D'ailleurs, elle n'a produit aucun autre débordement que des personnes qui étaient dans la salle qui ont décidé de frapper ces gens. Alors, si vous voulez, on fait 20 minutes sur le sujet.
Mais
il n'y aura jamais dans ma bouche aucun mot de condamnation pour des gens qui font des actions pacifiques pour dénoncer un génocide. Et ce qui devrait vous choquer, c'est pas que des gens aient allumé trois fumigènes dans une salle, c'est qu'il y ait eu 250 Palestiniens qui sont morts depuis que le cessez-le-feu a soi-disant été signé à Gaza. Oui, mais c'est ça qui devrait vous choquer et c'est de ça dont on devrait parler.
Donc
le fait que des gens aient allumé quatre fumigène dans une salle de spectacle.
Manuel Bompard, d'autres images qui ont marqué la semaine. Des vidéos révélées par Libération et Mediapart. Elles relancent le débat sur le maintien de l'ordre lors des manifestations de 2023, manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline. On entend dans ces vidéos, entre autres, des ordres de tir tendus des gendarmes contre les manifestants. C'est une pratique interdite. Françoise Fressoz, une question ? Vous ne faites pas confiance ? Là, c'était la question de France.
Non, est-ce que vous demandez cette commission d'enquête parce que vous ne faites pas confiance à l'armée ou parce que vous avez un doute sur le gouvernement ? Racontez-nous. Alors, toutes les enquêtes sont là.
Je fais la transition parce que vous êtes allé un peu vite. Oui, effectivement, on demande une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles le maintien de l'ordre s'est déroulé lors de cette manifestation à Sainte-Soline. Pourquoi on fait cette commission d'enquête, madame ? Parce que les vidéos qui ont été publiées cette semaine, ça fait 2 ans. Qu'elles sont dans les mains de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
Mais c'est parce que c'est la gendarmerie nationale, vous pensez qu'ils font de la rétention ?
Non, c'est pas parce que c'est l'un ou parce que c'est l'autre.
Ils font de la rétention d'informations ?
Je ne fais pas de procès d'intention, madame, j'en reste à des faits. Ces vidéos, elles sont inacceptables, vous les avez peut-être vues, il y a ce que vous dites sur les tirs tendus, qui sont une pratique illégale, mais il y a aussi des propos qui sont juste inacceptables, dans lesquels on dit qu'on va tuer des gens, qu'on est content d'en avoir éborgné. Voilà,
C'était une journée, en effet, très violente. Il y a eu aussi de l'autre côté des violences.
Je ne dis pas l'inverse, madame, mais est-ce que ça justifie qu'un gendarme puisse être content quand quelqu'un est blessé ? Est-ce que ça justifie qu'on puisse utiliser des pratiques qui sont illégales ? Évidemment non. Or, ces vidéos, ça fait 2 ans qu'elles sont dans les mains de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Il ne s'est rien passé.
Qu'attendez-vous de cette commission d'enquête ?
J'attends qu'on fasse la lumière sur y compris la hiérarchie, sur qui a donné les ordres. Sur comment ça s'est déroulé, sur est-ce qu'il y a des sanctions pour les policiers ou les gendarmes en l'occurrence qui manifestement n'ont pas respecté les règles élémentaires de la déontologie. Vous savez, la police, la gendarmerie nationale, elles sont ce qu'on appelle les détenteurs du monopole de la violence légitime. Et donc ça leur donne des devoirs sur le fait de respecter des cadres déontologiques. Et cette journée, elle a été extrêmement violente. Il y a eu plus de 200 blessés. Il y a des gens qui ont été traumatisés par la violence. Et ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas acceptable.
Le ministre de l'Intérieur a demandé une enquête administrative. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans cette enquête ?
Je n'ai pas confiance dans la capacité du ministre de l'Intérieur, effectivement, à apporter des réponses sur ce sujet, puisque quand on lui a posé... Non, ça, c'était le ministre de la Justice. Quand on lui a posé la question, il a dit que, globalement, il n'avait pas vu les vidéos. Peut-être que son rôle, ce serait de les regarder, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Une dernière question d'actualité, Manuel Bompard, sur le Mercosur. Apparemment, Emmanuel Macron, je vous emmène là sur complètement autre chose.
On est sur
un accord de libre-échange de l'Union européenne avec les pays d'Amérique du Sud. Emmanuel Macron trouvait que l'accord était inacceptable en l'état. Il a dit, il y a quelques heures, qu'il était vigilant, mais plutôt positif. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'il est en train totalement de lâcher la France et la position qui est la position assez largement partagée d'ailleurs dans la classe politique française. Et donc je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire une annonce. Lors de notre niche parlementaire qui a lieu à la fin du mois de novembre, les parlementaires auront l'occasion de dire leur mot sur le sujet puisque nous avons déposé une résolution pour s'opposer et rejeter l'accord de libre-échange avec le Mercosur.
Ça n'aura pas de valeur, cette résolution. Juste un signal, c'est ça ?
Si l'ensemble de l'Assemblée nationale vote cette résolution pour rejeter l'accord de libre-échange avec le Mercosur, je crois que ça sera difficile pour le président de la République de faire comme si ça n'existait pas. Le président de la République ment aux Français sur ce sujet depuis le début en faisant croire qu'il est opposé à l'accord de libre-échange avec le Mercosur, alors qu'en fait, il s'apprête à capituler en race campagne. eh ben, pour notre part, nous refusons de capituler en race campagne et d'approuver un accord de libre-échange qui aura des conséquences dramatiques pour l'agriculture française, pour l'écologie, pour la santé
des habitants. Vous ne croyez pas aux clauses de garantie offertes par Bruxelles ?
Ces clauses miroirs, en fait, c'est une clause aux alouettes, c'est un miroir aux alouettes, si vous voulez, on va dire comme ça. C'est-à-dire que vous prétendez qu'il va y avoir des contrôles, alors que vous n'avez pas les moyens de garantir et d'assurer ces contrôles. Donc c'est un mensonge qui est fait aux gens. Il faut rejeter cet accord de libre-échange avec le Mercosur. Nous le ferons au Parlement européen et nous aurons l'occasion de le faire aussi à l'Assemblée nationale à travers cette résolution.
Manuel Bompard, vous êtes l'invité de Questions Politiques. On va tenter à présent de mieux vous connaître.
Oh là là.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Questions Politiques.
Et celle qui dévoile nos invités, c'est Alix Bouillaguet, notre spécialiste des biographies et des archives.
C'est ni un mentor, ni un père, c'est évidemment une personnalité politique qui a un rôle central dans la vie politique française et qui a eu un rôle central, y compris pour moi, parce que j'ai beaucoup appris et j'apprends beaucoup à ses côtés, et je m'en cache pas, évidemment. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même la personne qui a relevé la gauche dans ce pays. Donc je sais
Merci
qu'il est d'usage de dire beaucoup de mal de Jean-Luc Mélenchon, mais pardonnez-moi, moi j'en dirais beaucoup de bien.
On vous entend, c'était en septembre dernier, effectivement très laudateur sur Jean-Luc Mélenchon. Vous apparaissez pourtant comme en quelque sorte l'antithèse de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'anti-bruit et fureur. Mais si votre style diffère, vous êtes son premier lieutenant zélé, le coordinateur du parti, celui qui donne les éléments de langage, celui aussi qui a gravi tous les échelons de la Mélenchonie depuis 2008. Est-ce que c'est offensant de vous décrire aussi comme un apparatchik ?
Oui.
Pourquoi ?
J'ai l'impression que vous avez envie d'être offensant avec moi aujourd'hui.
Pas du tout. C'est pour ça que je me...
Mais parce que d'abord, vous dites laudateur zélé, etc. Acceptez peut-être l'idée que la personne qui est en face de vous, elle a un cerveau, elle a des idées, elle essaye de réfléchir parfois par elle-même.
On va parler de votre cerveau
non,
parce que vous
voyez,
en avez.
Non, mais je le dis comme d'autres, en fait. Et pour le reste, oui, je me cache pas du fait que, effectivement, je suis fier de militer aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, que je considère qu'il a eu un rôle essentiel alors que la gauche, elle était dans les limbes après le quinquennat de François Hollande, pour retrouver, reconstruire une gauche digne de ce nom dans ce pays, qu'on peut aussi lui reconnaître quand même, parce que c'est bien, j'entends que beaucoup de gens aiment le critiquer, mais il faut peut-être aussi reconnaître quand il y a des choses positives. Par exemple, on pourrait reconnaître à Jean-Luc Mélenchon d'avoir contribué à faire émerger aussi une nouvelle génération politique. Et pour le reste, madame, moi, je suis un militant, je travaille pour défendre les idées qui sont les miennes, je porte la parole des habitantes et des habitants de ma circonscription. Si vous voulez traduire tout ça en apparatchik, je trouve que c'est un peu réducteur pour l'engagement politique. Qui est le mien.
C'est
voilà.
Sûr que c'est un peu réducteur parce que votre grande passion, ce sont les chiffres. Vous cartonnez à l'école. Au bac, vous avez 20 en maths et 19 en physique.
Oui, c'est ça, je crois.
Bah oui, école d'ingénieur à Grenoble, docteur en maths appliqué dans le domaine de l'optimisation aérodynamique en aéronautique. Alors, autant vous dire que là, moi, je ne suis pas du tout calée. À la sortie...
C'est juste pour optimiser la forme des ailes d'avion, madame.
Très bien.
Ouais, je pourrais expliquer.
Et donc, maintenant.
Et donc, à la sortie, vous montez une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, on peut se demander quand même, au vu de ce parcours d'excellence, qu'est-ce que vous êtes allé faire en politique ?
Bah, tout simplement parce que...
Vous vient cette passion ?
Bah, je crois que c'est une prise de conscience aussi dans ma jeunesse du caractère insupportable des inégalités qui existent dans notre pays, de la marche à l'abîme que vivent aujourd'hui nos sociétés du point de vue du changement climatique, et que tout ça a forgé chez moi aussi une envie de transformer la société, parce que je trouve que cette société, elle fonctionne pas bien. Voilà, et donc j'ai décidé de m'engager d'abord en dehors des formations politiques pour essayer de changer les choses, et puis petit à petit, je me suis dit, bah, il suffit pas de protester dans son coin. Faut s'y mettre aussi.
Et
voilà,
les déjeuners
et
du dimanche avec vos parents, vous avez deux frères cadets,
oui.
C'était animé, ils sont de gauche, vos parents ?
Oui, ça parlait quand même politique, mais il n'y avait pas d'engagement partisan. Voilà, donc ça a sans doute aussi contribué, évidemment, à forger ma conscience politique. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir une formation scientifique. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en même temps, être engagé en politique, on peut faire les deux. Moi, je garde un intérêt pour la science, pour les recherches que j'ai pu faire dans ma carrière professionnelle.
Il paraît que pour vous détendre, vous faites des équations de temps en temps.
Ça, c'est un peu une caricature, ça. Je suis intéressé, bien sûr, par la science. Je vous avais dit, j'ai travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est un sujet, y compris politiquement, duquel j'essaye de m'emparer aussi, parce que je trouve que c'est un sujet qui a beaucoup de répercussions politiques. Mais je suis aussi fier de mon parcours politique. Je crois qu'on peut être fier des deux en même temps.
Alors, je sais que la phrase, l'expression est un petit peu à la mode, celle d'être un moine soldat, mais elle vous vous correspond aussi, hein, il n'y a pas que Sébastien Lecornu.
Je ne sais pas pourquoi vous dites ça.
Non, vous n'êtes pas moine soldat.
Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire un moine soldat.
Quelqu'un, vous êtes un gros bosseur.
Ah oui, ah, ça.
Dans une forme de discrétion.
Bah, discrétion, je ne sais pas. Regardez, je suis avec vous aujourd'hui. Mais oui, vous avez raison. Je considère que quand on porte la parole des électrices et des électeurs, qu'on défend des idées à l'Assemblée nationale, faut être à la hauteur. Et être à la hauteur, ça nécessite aussi de travailler sur les sujets, sur les dossiers. J'essaye de faire en sorte de ne pas dire des bêtises. Mais je trouve que tout le monde devrait faire pareil, non ?
Et est-ce que votre côté pas de vague, c'est aussi un moyen, un bon moyen pour ne pas déclencher la colère mélenchonienne qui s'abat parfois sur les troupes en mission ?
En fait, le problème, c'est que vous avez une... Pardon, je vous le dirai, c'est pas grave, mais...
Est-ce que... Je termine juste ma question. Est-ce que c'est parce que aussi, dans votre parti, l'après-Mélenchon, c'est presque un interdit ou en tout cas un impensé ?
Non, parce qu'en fait, le problème, c'est pas grave, hein, mais vous avez en fait une idée préconçue sur la France insoumise qui fonctionnerait de telle ou telle manière. En gros, pour résumer, que ce serait Mélenchon qui déciderait tout et que les autres...
Ah bah il y a eu quand même quelques preuves assez éclatantes.
Attendez, que les autres n'ont pas de cerveau et qui suivent sans réfléchir. Non, mais pardon, moi, en fait, c'est pas dans ce mouvement politique que je vis.
Le fait quand même qu'il y ait eu une purge, je sais que vous n'aimez pas le mot, mais en 2024, les anciens compagnons de Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido, Alexis Corbière, ils ont dû prendre la sortie et vous avez été...
Et alors ?
Vous avez mené sans état d'âme cette purge.
Mais d'abord, je n'ai pas fait de purge. Ils n'ont pas été réinvestis comme candidats aux élections législatives. Et effectivement, j'assume totalement cette décision, mais ce n'était pas une décision personnelle, c'était une décision collective. Donc je ne sais pas pourquoi vous voulez plaquer l'image que vous avez de la France insoumise sur moi et sur la manière avec laquelle on fonctionne. Donc je vais vous dire, la France insoumise, c'est à peu près 400 000 militants partout en France, plus de 100 000 qui militent au quotidien dans des groupes d'action. C'est des gens qui font des collectes, par exemple, en ce moment alimentaires. C'est des gens qui font des collectes de jouets de Noël pour les enfants qui n'auront pas de chance d'avoir des jouets de Noël. C'est des gens qui se battent, en fait, pour défendre des idées. Et puis ensuite, c'est effectivement des parlementaires qui essayent de bien faire leur travail aussi. Donc je sais que ça ne correspond pas tout à fait au canon médiatique sur la France insoumise.
Donc il n'y a pas de culture du chef.
Mais moi, la France insoumise que je connais, c'est ça. C'est ça la réalité du mouvement que je coordonne et du mouvement que j'ai rejoint. Et je suis très fier d'avoir rejoint ce mouvement. Et je trouve qu'il subit des procès qui sont souvent des procès très injustes par rapport à la réalité.
D'anciens insoumis aussi, hein, là, Alix les a cités. Il y a eu quand même, ils n'étaient pas très contents de prendre
mais
la sortie
madame,
aussi brutalement.
Vous savez, dans toutes les formations politiques, je peux vous faire la même chose dans toutes, il y a parfois des gens qui sont en désaccord et qui décident de quitter une formation politique. Et c'est rare qu'ensuite ils disent beaucoup de choses bien pour ces formations politiques-là. C'est comme ça, c'est la vie politique. Je leur en veux même pas de le faire. Mais c'est pas parce qu'eux le disent que c'est la vérité de comment fonctionne le mouvement insoumis.
Nous vous avons demandé de venir, Manuel Bompard, avec une carte blanche, un sujet sur lequel vous voulez braquer les projecteurs, sur lequel on vous questionne peut-être moins. Mais alors là, c'est la grosse actu, la COP.
Bah justement, je trouve pas que ça soit vraiment la grosse actu. Je trouve qu'on en parle très peu. On est à 10 ans, c'est la COP qui va s'ouvrir à Belém. On est à 10 ans de la COP 21 qui avait eu lieu à Paris, dans lequel il y avait eu quand même des objectifs très ambitieux qui avaient été pris. Réduire la hausse de la température à 2 degrés, si possible à 1,5 degré. 10 ans après, je trouve que la situation est catastrophique. Tous les scientifiques vous disent aujourd'hui que ce seuil de 1,5 degré va être dépassé dans la prochaine décennie. Et pour faire le lien avec les sujets nationaux, en France, on est censé réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5% chaque année. Cette année, on va à peine les réduire, peut-être de 0,5 ou de 0,6%.
Mais alors justement...
Et là, on a un budget dont on parle depuis un mois, dans lequel... On ne parle jamais d'écologie. Alors que vous avez, par exemple, un rapport qui a été fait par Jean Pisani-Ferry et Mme Mahfouz, qui ne sont quand même pas des insoumis, qui dit qu'il faudrait qu'il y ait 80 milliards d'euros d'investissement par an pour être à la hauteur de l'urgence climatique et environnementale. Et là, on va diviser par deux le fonds vert, on va réduire les fonds pour la rénovation thermique des logements.
Il y a eu un gros coup d'arrêt au moment des élections européennes de l'année dernière, où au fond, il y a eu une sorte de rejet presque populaire du Green Deal. Est-ce que vous en tenez des conséquences ? Est-ce que vous dites oui, il faut peut-être réorienter la façon dont on procède ?
C'est clair que l'écologie libérale, on va dire, qui a été celle de la Commission européenne, est une écologie très antipopulaire, c'est-à-dire faisant croire que pour...
On l'a beaucoup mis en cause sur le côté normatif, trop de normes.
Ouais,
c'était ça la grosse critique.
Mais aussi sur le fait que ça allait reposer essentiellement sur les catégories populaires. Par exemple, pour prendre un exemple assez emblématique de cette politique, c'est ce qu'on a appelé les zones à faible émission en France.
Vous avez voté contre.
Oui, où on a dit, parce que c'est pas de l'écologie, ça. Si vous voulez, moi, je suis élu, je vous donne un exemple très concret. Moi, je suis
c'est
élu...
l'interdiction progressive des voitures les plus polluantes dans les villes.
Oui, mais c'est le ça, problème, c'est la question des alternatives. Moi, je suis élu d'une ville, par exemple, à Marseille, et de quartiers, qui sont des quartiers très, très pauvres. Dans le 3e arrondissement de Marseille, il y a 50% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Il y a des bus et il y a des métros à Marseille.
Oui, enfin, les bus, vous voulez aller habiter à la Belle de Mai, à Marseille, et vous allez voir les bus après 20h, comment vous allez pouvoir rentrer ou aller travailler. Vous allez aller là-bas, et puis vous allez essayer d'aller travailler à l'autre bout de la ville, et vous allez voir que vous avez besoin de 1h30 ou 2h pour aller travailler. C'est impossible. Et quand vous dites, il n'y a pas d'alternative, mais en plus, vos voitures, vous n'allez pas pouvoir les utiliser pour aller travailler, vous condamnez des gens à rester à la maison. Et donc, c'est impossible.
Et qu'est-ce que vous dites sur 2035? Est-ce qu'il faut que Bruxelles garde cette date butoir pour interdire la vente des véhicules à moteur thermique?
Moi, je ne suis pas pour remettre en cause ces règles-là, mais alors il faut une politique en France qui soit une politique de planification de la transition nécessaire du secteur automobile, qui n'a pas été faite pour l'instant. Où on a, par exemple, poussé les constructeurs à se positionner sur le champ de l'électrique, mais sur du haut de gamme ou sur du moyen de gamme, sans se protéger de la concurrence internationale. Mmh. Et aujourd'hui, le secteur de l'automobile, il est en crise en France. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je ne comprends pas, alors que cette question-là, elle devrait être centrale, comment on peut examiner un budget dans lequel on va encore faire des économies sur le budget de l'écologie. Souvent, quand on parle de la dette, vous avez un argument qui consiste à dire mais on va laisser ça à nos générations futures, ce qui est souvent bien faux d'ailleurs, parce que la dette, on l'a fait tourner, on l'a fait rouler, on réemprunte
pour
rembourser.
Mais les taux d'intérêt sont
plus élevés. Mais il y a une dette, madame, qu'on ne pourra jamais rembourser. C'est la dette écologique. C'est-à-dire que c'est irréversible ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et je trouve que c'est irresponsable d'avoir des gouvernements qui continuent à rien faire sur ce sujet, même à reculer, alors que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, c'est même la question de la survie de l'espèce humaine sur Terre qui va être posée.
On continue avec 2027, si vous voulez bien. On continue à se projeter. Françoise Fressoz, une question qui sera au cœur du débat public et de la présidentielle dans 2 ans. Françoise.
Jean-Luc Mélenchon. Il a déjà eu 3 candidatures à la présidentielle. Il n'est pas encore candidat officiel, mais on voit qu'il se prépare. Et donc, la grosse question, mais dans tous les esprits, c'est est-ce que c'est la bonne, cette fois, la bonne candidature ou est-ce que c'est la candidature de trop? Donc, première interrogation, c'est l'âge. Quand vous voyez Jordan Bardella, 30 ans, qui caracole en tête des intentions de vote à l'élection présidentielle, est-ce que vous ne dites pas à la France insoumise, le temps des papis, c'est fini?
Bon, d'abord, vous utilisez les expressions que vous voulez.
Oh, c'est gentil, papy.
Non, mais ça va. Mais bon, faites attention avec les sondages, quoi. Je veux dire, moi, vous savez, à 18 mois... Non, mais là, parce que je réagis à Jordan Bardella...
Je sais, mais ça, de toute façon, vous dites à chaque fois les sondages...
Non, c'est pas je dis à chaque fois, madame, mais à un moment, il faut juste se rappeler des choses qui se sont passées. Vous savez qu'il y a 18 mois de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon était annoncé à 8% dans les sondages et Marine Le Pen était annoncée à 30% dans les sondages. Il y avait exactement 22 points d'écart à 18 mois de l'élection présidentielle. Le soir de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fait 22% et Marine Le Pen a fait 23%. Il y avait un point d'écart. Donc, vous savez, je fais très attention avec les gens qui disent...
Le RN n'était pas au niveau auquel il est
30,
aujourd'hui.
Là, il est à 35.
Et il n'y avait pas non plus la banalisation de l'image du RN à cette époque-là.
Je ne veux pas contester certaines choses que vous dites, madame Fressoz. Je veux dire juste, remettons les choses en perspective. Pour le reste, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 11% la première fois, il a fait 19% la deuxième fois, il a fait 22% la troisième fois. Alors moi, je ne suis pas devin,
Et donc la quatrième fois, vous le mettez à quel niveau ?
Je considère que progressivement, la France insoumise, les idées qu'on défend, la base populaire qui est la nôtre, s'élargit. Et elle s'élargit, évidemment, avec Jean-Luc Mélenchon, aux différentes élections présidentielles. Alors, quant à la question de savoir qui sera notre candidat à l'élection présidentielle de 2027, on répondra à cette question en temps voulu, quand on considérera que c'est le bon moment pour vous répondre.
Vous dites qu'il n'est pas candidat, là, Jean-Luc Mélenchon ?
Je vous dis que Jean-Luc Mélenchon...
Vous dites qu'il y a un débat interne pour savoir s'il l'est ou pas.
Non, je ne vous dis pas qu'il y a de débat interne. Je vous dis que Jean-Luc Mélenchon, comme tous les parlementaires de la France insoumise, sont en campagne permanente. Donc effectivement, il est en campagne. Comme tout le monde est en campagne. Oui, mais c'est pas parce que ce matin le Rassemblement National dit que le ciel est bleu et qu'il est bleu, je vais pas dire qu'il est rouge.
Poursuivons parce qu'on perd du temps. Vous dites il y a un élargissement successif de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Depuis 2022, il se produit quand même des choses plutôt inquiétantes pour lui. D'abord, son image personnelle s'est beaucoup aggravée. Beaucoup, une majorité de Français le juge inquiétant, pas attaché aux valeurs démocratiques.
Ça, Madame Fressoz.
Non, c'est pas. C'est En fait, ce que je constate, c'est que dès que la réalité vous déplaît, vous dites ça n'existe pas. Donc, il y a l'image dégradée de Jean-Luc Mélenchon. Il y a le fait qu'il n'est plus hégémonique au sein de la gauche. D'accord. On voit bien qu'il y a eu des dissensions d'anciens LFIs qui sont partis. On voit bien que les écologistes tâtonnent. On voit bien que la gauche dite réformiste est en train de faire sécession. Donc, pourquoi vous dites élargissement de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon ?
Mais d'abord, la situation que vous décrivez, que je ne veux pas contester aujourd'hui, elle n'est pas très différente de la situation de l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'il y avait une candidature ?
Le RN n'était pas à ce niveau-là.
Là, vous me parlez
le RN
de la gauche,
n'était pas
Madame
le Fressa, favori de l'élection.
Il y avait 8 députés, débat, aujourd'hui 120.
Un débat qui ne part pas dans tous les sens. Vous me parlez de la situation à gauche. Est-ce que oui ou non, en 2022, il y avait une candidature du Parti Socialiste qui a fait 1,75% qui s'appelle Madame Hidalgo ? Est-ce que oui ou non, il y avait un candidat des écologistes ? Est-ce que oui ou non, il y avait un candidat des communistes ? Oui, ça n'a pas empêché Jean-Luc Mélenchon de faire 22% des voix. Donc il n'y a pas quelque chose de très différent de ce point de vue-là. Ça, c'est la première chose que je voulais vous répondre, madame. Pour le reste, sur l'élargissement de notre base politique, moi, je regarde, par exemple, le résultat des dernières élections européennes, qui est toujours une élection difficile pour la France insoumise. C'est une élection avec une faible participation. Or, on sait que souvent, dans les élections à faible participation, c'est plus compliqué pour nous. On a gagné 1 million de voix par rapport à l'élection européenne
précédente. Mais vous êtes très loin de Glucksmann, par exemple, du candidat
Glucksmann. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, la liste de la France insoumise en 2019, elle avait fait 6% et M. Jadot avait fait 14%. D'accord ? Donc, les élections européennes, c'est pas les élections présidentielles. Je vous dis juste que du point de vue des bases politiques que ça met en mouvement, je considère que le travail qui est le nôtre, d'aller chercher en particulier, puisque c'est notre stratégie, les gens qui sont les plus éloignés de la politique, qui globalement n'y croyaient pas et qui petit à petit retrouvent des raisons d'espérer. Et mon objectif, c'est de créer une stratégie qui permet de gagner l'élection présidentielle de 2027 ou celle d'avant, s'il y en a une avant. Et pour gagner cette élection, je pense que c'est auprès de ces gens-là, des abstentionnistes, des gens qui sont les plus éloignés politiques, qu'il faut progresser. Et je suis content de voir que notre travail porte ses fruits.
Quand la gauche vous dit vous pouvez pas gagner le deuxième tour de la présidentielle parce que vous êtes devenu LFI, Jean-Luc Mélenchon, le repoussoir par rapport à Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez à
mais
ça ?
Mais d'abord, je leur réponds que pour gagner au deuxième tour de l'élection présidentielle, il faut d'abord y être qualifié au deuxième tour. Parce que quand je vois des gens qui sont annoncés à 4% dans les sondages nous expliquer que nous, on ne sera pas en mesure de gagner au second tour.
Vous visez qui, là ?
Voilà, Olivier Faure, Marine Tondelier, pardon.
Vous les prenez pour quantité négligeable ?
Je ne les prends pas pour quantité négligeable, mais eux s'appuient sur des sondages pour dire que nous, au deuxième tour, on ne pourrait pas gagner. Donc ces mêmes sondages disent qu'ils sont même pas en capacité. Cité aujourd'hui de se qualifier au second
est-ce
tour.
Qu'on pourrait...
Je trouve que c'est pas les mieux placés pour nous donner ces leçons. Pour
Manuel
le reste,
Bompard.
Au second tour d'une élection présidentielle, excusez-moi, compléter la réponse. Aux dernières élections législatives, tout le monde disait il n'y aura pas au second tour de mobilisation contre l'extrême droite. Il y en a eu une. Et y compris un certain nombre de députés insoumis qu'on annonçait soi-disant trop clivants. Ils ont été élus, y compris avec des voix qui venaient pas uniquement des camps insoumis. Et donc il n'y a pas de raison qu'aux élections présidentielles, par la mobilisation des abstentionnistes et des gens les plus éloignés de la politique, et par le fait qu'un certain nombre de candidats, si c'est l'extrême droite en face, un certain nombre d'électrices et d'électeurs voudront battre l'extrême droite, oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon ou un autre candidat insoumis a tout à fait la possibilité de l'emporter.
En tout cas,
c'est mon objectif.
Sauf que vous avez, y a un changement quand même notable par rapport aux années 2020. Ça, c'est l'enquête fracture française. La France insoumise, un parti qui attise la violence, un parti dangereux pour la démocratie. Les chiffres sont plus hauts aujourd'hui parmi les électeurs de gauche qu'en 2020.
Bah, heureusement,
votre image s'est dégradée à gauche,
oui,
chez les écolos, chez les socialistes.
Heureusement, vu toute l'énergie qui est mise pour essayer de salir la France insoumise. Franchement, si ça n'avait produit aucun résultat, vous devriez
vous
interroger sur...
Vous le prenez par l'ironie.
Non, je ne le prends pas par l'ironie. C'est une réponse, madame. Je décris une stratégie de diabolisation de la France insoumise qui a été menée dans tous les grands médias depuis 2 ans et qui produit, c'est vrai, ces résultats. Et moi, ce que je vous dis, c'est que quand on va rentrer dans la campagne présidentielle, quand les gens vont sortir de ces polémiques ridicules et qu'ils vont s'intéresser à ce qu'il y a dans les propositions, dans les programmes, et pas juste aux bêtises qu'on dit sur la France insoumise, oui, je pense que cette image soi-disant dégradée, je pense qu'elle va très largement s'améliorer. Parce que, excusez-moi, mais dans l'interview, dans la discussion qu'on a depuis 55 minutes maintenant, expliquez-moi ce qui attise la violence, expliquez-moi ce qui est hors républicain, etc. Strictement rien. Tout ça, c'est des calomnies et des procès qui sont faits contre la France insoumise et qui ne s'appuient sur aucun élément sérieux.
Là, on est sur des sondages et des enquêtes d'opinion. Mais imaginons que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas candidat à la prochaine présidentielle. Est-ce que ça pourrait être vous.
Mais madame, moi je ne vais pas rentrer au jeu des petits noms et des petits chevaux. Moi, si l'élection présidentielle devait avoir lieu demain, j'ai toujours dit que je trouvais que Jean-Luc Mélenchon était aujourd'hui la personnalité la mieux placée.
Mais dans
pour
la jeune garde, vous voyez bien, il y a Mathilde Panot, il y a Clémence Guettet, il y a vous.
On a l'embarras du choix.
Mais
vous l'avez dit, on a l'embarras du choix. Il y a plein de gens qui ont les épaules. Les personnes que vous avez citées, évidemment, les ont. Et si on doit à un moment décider d'une. Mais vous m'avez mis dedans. Donc je considère...
Et il faudra une primaire à ce moment-là ?
Mais non, on choisira entre
François Ruffin le dit encore ce matin, il faut une grande primaire de la gauche.
Non, mais franchement, on a parlé de Zoran Mamdani tout à l'heure. Zoran Mamdani est exactement la démonstration que la primaire est absurde quand vous mettez ensemble des candidats qui ne portent pas la même orientation programmatique. Zoran Mamdani, il a gagné l'élection contre celui qu'il avait battu à la primaire. Donc si vous allez dans une primaire avec des gens qui ne défendent pas les mêmes projets politiques, il n'y aura pas les gens... Par exemple, si nous, on gagne la primaire, M. Glucksmann ne va pas faire campagne pour nous. Ce n'est pas vrai. Donc il ne faut pas faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas grave s'il y a plusieurs candidatures. Il faut juste être en capacité de se qualifier au second tour. Et ben nous, on travaillera pour être en mesure de nous qualifier au second tour. Quant à notre candidature, ne vous inquiétez pas, on décidera ensemble et on aura une proposition commune et ça sera la meilleure.
Les deux dernières minutes, Manuel Bompard, on passe au vrai-faux, la dernière séquence. Je vous donne des affirmations, certaines très sérieuses, d'autres un peu plus triviales.
Oulala,
et vous répondez,
pièges,
vrai ou faux. C'est le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005 qui vous a amené à la politique, vrai ou faux ?
Vrai, plutôt vrai. Ouais.
Vous parlez régulièrement à une intelligence artificielle, vrai ou faux ?
Non, faux.
Vous auriez les épaules pour être président de la République ?
Bon, ça, c'est pas à moi de répondre à cette question.
Ah bah, vrai ou faux ?
Bah non, par définition, on n'est pas forcément la personne la mieux placée pour parler de soi-même.
Vous faites partie de la commission de la défense et des forces armées à l'Assemblée nationale. Vous avez auditionné le chef d'état-major.
Oui.
Il faut se préparer à un choc avec la Russie d'ici 3-4 ans. Pour vous, vrai ou faux ?
Un choc au sens d'une...
Général.
Par exemple, la revue stratégique nationale ne dit pas ça, donc plutôt faux.
Vous êtes supporter de l'AS Saint-Etienne ?
Je suis supporter de l'OM, mais l'AS Saint-Etienne...
Ah, c'est
dur,
député,
là.
Le député.
Non, attendez, on va dire les choses, franchement.
Député de la 4e circonscription,
allez. Je soutiens l'OM, et après, c'est vrai que je suis né à Firmini, donc j'ai aussi, on va dire, une passion de cœur pour l'AS Saint-Etienne. Mais comme il y en a en première division et l'autre en deuxième, je peux soutenir les deux.
En 2007, vous avez voté deux fois pour Ségolène Royal, deux fois. Vrai ou faux ?
Faux.
Juste la seconde fois.
Ouais.
En 2022, justement, deuxième tour, Le Pen-Macron, vous avez voté Macron, vrai ou faux ? Vous avez répondu.
Vous avez chuchoté.
J'ai mal entendu.
J'ai voté contre Marine Le Pen, ouais.
Avez voté Macron.
J'ai voté contre Marine Le Pen. Pour le reste, laissez-moi le secret de l'isoloir. Mais en tout cas, j'ai pas voté pour Marine Le Pen.
En 2027, vous pourriez voter Glucksmann, vrai ou faux ?
Bah non, puisque je voterai pour le candidat de la France Insoumise.
Ah, donc... Manuel Bompard,
vous allez quand même pas
Manuel
me demander
Bompard,
de voter pour quelqu'un d'autre.
Merci d'avoir répondu à nos questions politiques.
Merci à vous.
On se retrouve la semaine prochaine.
Bonne journée.